Bonjour frères et sœurs. Alors je veux simplement confirmer que vous avez une très belle bibliothèque à votre disposition. Le grand voyageur que je suis dans les églises de France peut affirmer, je crois, avec une certaine assurance, que vous avez probablement une des bibliothèques les plus riches des églises de France. Et même une des plus up-to-date, une des plus à la pointe et moderne, parce que pas mal d'églises que je visite ont des vestiges archéologiques des bibliothèques. Des bibliothèques qui remontent à 50 ans. Ce n'est pas votre cas, c'est vraiment profitez-en. Et le livre que présentait Sophie sur les béatitudes. Alors, je vous signale que les béatitudes, d'une certaine manière, c'est un concentré des psaumes. Hein, vous qui lisez les psaumes, pensez à lire les béatitudes en voyant les béatitudes comme une espèce de résumé très très concentré des psaumes. Voilà, donc j'aimerais retrouver avec vous la parole du Seigneur pour que cette parole nous bénisse, nous nourrisse, nous encourage, nous relève. Alors le mois dernier, ceux qui étaient là peut-être s'en souviennent, sinon pour ceux qui n'étaient pas là, je vous en informe, nous avions lu, médité ensemble, ce terrible psaume 88, ce psaume qui est presque désespérant, qui se termine sur ce mot terrible de ténèbres. Vous savez, c'est ce psaume où la foi est réduite au cri, le croyant qui crie vers Dieu, qui n'est pas capable de dire autre chose à Dieu que de crier du profond du sentiment d'abandon qui est le sien. Alors je vous ai laissé avec ce psaume, un mois s'est écoulé, et c'est bien parce que je pense qu'il faut laisser le temps, même à ces paroles extrêmement dures à entendre, de faire son chemin dans nos vies. Et ce mois-ci, j'aimerais vous proposer de méditer le psaume 18. Alors, en écho, oui, avec le mois qui s'est écoulé, c'est bien, un petit peu en écho avec le psaume 88. Il ne faut jamais se précipiter quand on a des textes bibliques qui viennent comme ça nous interroger, nous remuer. Il ne faut pas se précipiter pour essayer tout de suite de calmer l'inquiétude. Il faut laisser la parole prendre son temps. Chaque parole du Seigneur a besoin de temps pour faire son œuvre en nous. Alors le psaume 18, vous le savez tous, il est présent deux fois dans la Bible. Alors il y a des morceaux de psaumes qu'on retrouve d'un psaume à l'autre, ça c'est voilà. Mais le psaume 18 est le seul psaume qui soit présent entièrement. C'est-à-dire 51 versets, à toute petite exception près, deux fois dans la Bible. Une fois dans le livre des psaumes et une fois dans le chapitre 22 du deuxième livre de Samuel. Ça, c'est assez étonnant, parce que 50 versets, c'est déjà... C'est le psaume 18, c'est le quatrième des plus longs psaumes de la Bible. Donc c'est un psaume qui est important, on l'a deux fois. C'est... Alors, un psaume de louange. David célèbre le Seigneur qui l'a sauvé et qui l'a sauvé de tous ceux qui cherchaient sa mort. Et cette expérience d'avoir des ennemis, de devoir s'enfuir, d'être confronté à des combats, c'est une expérience qui a duré pendant des années. Elle a marqué, j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu, mais elle a marqué en fait l'accession au trône d'Israël. Dès que David a été oint pour être le roi, les ennuis ont commencé. Alors, permettez-moi de lire avec vous, je vous fais grâce peut-être des 50 versets, mais ne vous privez pas de les lire, hein, de lire les 20 premiers. Et je vais lire le petit verset d'introduction qui nous propose de comprendre ce psaume dans un certain contexte. Du chef de chœur, du serviteur du Seigneur, de David, qui prononça pour le Seigneur les paroles de ce chant. le jour où le Seigneur l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher en qui je trouve un abri, mon bouclier, la corne qui me sauve, ma citadelle. Je m'écris, loué soit le Seigneur, et je suis sauvé de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré, les torrents de la destruction m'avaient rempli d'effroi, les liens du séjour des morts m'avaient entouré, les filets de la mort étaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoque le Seigneur. J'appelle mon Dieu au secours de son temple, il m'entend. Et les appels au secours que je lance vers lui parviennent à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondations des montagnes furent agitées. Elles s'ébranlèrent parce qu'il s'était fâché. De la fumée montait de ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Des braises enflammées en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit. Avec une épaisse nuée sous ses pieds, il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa cachette, sa hutte tout autour de lui. Des eaux ténébreuses et de sombres nuages, de la clarté qui le précédait, provenaient ces nuages, de la grêle et des braises. Le Seigneur tonna dans le ciel. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les braises. Il lança ses flèches, il les dispersa, il multiplia les éclairs et les frappa de panique. Le lit des eaux apparut, les fondations du monde furent mises à découvert. Quand tu les rabrois, Seigneur, par ton souffle, par le vent de tes narines. D'en haut, il tend la main, il me saisit, il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me détestent, qui sont plus forts que moi. Il se tenait devant moi le jour où la catastrophe s'abattait sur moi. Mais le Seigneur était mon appui. Il m'a fait sortir pour me mettre au large. Il m'a délivré car il m'aime. Amen. Voilà, frères et sœurs, entre la version que vous pouvez lire dans le livre de Samuel et le psaume 18, il y a une seule nuance, mais c'est une nuance importante. C'est la déclaration sur laquelle s'ouvre ce psaume. « Je t'aime, Seigneur. »« Je t'aime, Seigneur », dit David. C'est le cri de louange, le cri de reconnaissance de David. Or, ça va peut-être vous surprendre, parce qu'intuitivement, on pense autrement. C'est l'unique fois de toute la Bible, je dis bien de toute la Bible, c'est l'unique fois où un homme, spontanément, c'est-à-dire de sa propre initiative, s'écrit « Je t'aime, Seigneur ». Cette expression « Je t'aime, Seigneur », parce que nos chants de piété sont plein de « Je t'aime, Seigneur », elle peut nous sembler très familière. On a l'impression que la Bible est pleine d'hommes et de femmes qui disent « Je t'aime, Seigneur ». Mais en vérité, cette expression, elle n'apparaît qu'une seule fois dans cette forme directe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui disent « Je t'aime, Seigneur ». Mais ils ne le disent pas de cette manière directe. Ils le disent de manière indirecte. Ma première remarque, là, sera que le croyant de la Bible, ou les croyants du monde de la Bible, ils approchent l'amour pour le Seigneur avec, me semble-t-il, une certaine pudeur, une certaine humilité. Ils ont conscience de l'audace, de l'extrême audace qu'il y a à oser dire « Je t'aime, Seigneur ». Alors, qu'est-ce qu'ils disent? si vous connaissez probablement les psaumes ou d'autres textes de l'Écriture, ils vont dire « J'aime ta parole, j'aime tes portes, j'aime ta maison ». C'est-à-dire, ils le disent, bien sûr, ils disent leur amour du Seigneur, mais ils le disent de manière indirecte, hein, avec un petit retrait d'humilité. Là, c'est vraiment l'unique cri spontané, l'unique louange spontanée directe, « Je t'aime, Seigneur ». Alors, peut-être que vous avez en tête l'apôtre Pierre, hein, à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21 de l'évangile de Jean, Pierre qui, trois fois, répond au ressuscité, « Tu sais que je t'aime, Seigneur hein, », ou « Tu sais, Seigneur, que j'ai de l'amitié ». C'est toujours un peu difficile là, de traduire. Mais si Pierre le dit trois fois, ce n'est pas spontané. C'est dans un dialogue qui a été initié par Jésus. C'est Jésus qui a posé la question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tout cela ?» Et on sait que Pierre avait cette prétention à être celui qui resterait, qui défendrait Jésus. Les autres pouvaient s'en aller, lui serait là, et on sait ce qui est arrivé. En fait, l'interrogation de Jésus vise à dire à Pierre son pardon et à lui permettre de dire son amour du Seigneur, mais c'est une réponse. Hein, je leur dis, le psaume 18, c'est la seule affirmation directe, spontanée, envers le Seigneur de toute la Bible. Non, là, il y a peut-être quelque chose à chacun pour soi à réfléchir. La Bible ne nous inviterait-elle pas à une certaine pudeur, une certaine humilité quant à notre prétention à aimer le Seigneur? Il nous faut aimer le Seigneur, enfin j'espère que vous aimez le Seigneur, mais peut-être devons-nous un peu attentifs à ne pas dire ces paroles-là trop facilement, à la légère, et d'avoir un « je t'aime Seigneur » qui finalement n'a plus beaucoup, beaucoup de consistance. Si vous regardez les épîtres de Paul, ce qui domine dans les épîtres, d'ailleurs c'est vrai aussi dans les psaumes, c'est d'abord l'affirmation de l'amour de Dieu envers nous. L'amour premier de Dieu pour nous. Et vous remarquerez, dans l'ensemble des épîtres de Paul, c'est déjà un corpus important, c'est que jamais Paul n'écrit « Je t'aime, Seigneur ». Jamais il l'exprime comme ça. Lui, Paul va écrire « Christ est ma vie ». Fondamentalement, c'est la même chose. Mais c'est que toute la consécration de sa vie, tout l'engagement de sa vie manifeste son amour du Seigneur. Mais même chez Paul, il y a une pudeur spirituelle, une humilité spirituelle qui fait que jamais il ne le formule. Sa vie atteste son amour, mais ses mots restent indirects. Et Jean qu'on caractérise quelquefois comme étant l'apôtre de l'amour, même Jean tempère, non pas notre besoin et notre reconnaissance à Dieu, loin de là, mais il tempère notre prétention à aimer Dieu. Vous savez, alors s'il écrit « Nous l'aimons », mais c'est collectif, « Nous l'aimons ». Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Dire à Dieu « Je t'aime » ne doit jamais faire oublier « Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier ». Et c'est Jean aussi qui met un petit peu aussi nous invite à ce recul en disant « Comment oses-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois ?» En vérité, ma première remarque sur ce psaume, c'est qu'il m'invite à prendre conscience combien ma pauvreté personnelle, ma pauvreté spirituelle, combien il est facile pour moi de m'abuser moi-même avec des mots. Et quelque part, nos vies amoureuses l'attestent, hein, si honnêtes et respectables soient-elles, nos « je t'aime », les « je t'aime » que moi j'ai pu dire à mon épouse, on fête nos 50 ans de mariage cette année, donc un petit peu d'histoire, un peu d'expérience de la chose. J'ai eu des « je t'aime » qui étaient parfois un peu légers. Ils étaient vrais, mais un peu superficiel. Il manquait quelquefois un petit peu de consistance. On sait bien dans nos vies amoureuses que nos « je t'aime » sont parfois un peu manipulateurs. D'accord ? Est-ce qu'on n'aurait pas à méditer un peu de cette pudeur des croyants de la Bible, peut-être pour pouvoir, de temps à autre, dans des moments forts, pouvoir prononcer avec toute notre foi, notre engagement, ce « je t'aime, Seigneur ». Ah, je vous permettais une petite parenthèse. J'ai parfois entendu, même assez couramment, ces dernières années, dans pas mal d'églises, l'expression « être amoureux de Jésus ». Bon, moi je suis un vieux bonhomme, je suis plutôt un littéraire, ça me laisse un peu perplexe, ça me laisse un peu réservé. Parce que être amoureux, c'est une forme quand même un peu superficielle de l'amour. Être amoureux, ça ne pose aucun engagement, aucun lien. Hein, d'ailleurs, on dit bien en français, je suis tombé amoureux. D'ailleurs, on n'est pas trop responsable de la chose, bang, ça dégringole, je tombe amoureux, oui. Et combien de ces sentiments amoureux se sont achevés dans la souffrance. Alors l'adolescent, enfin, les psychologues parlent davantage aujourd'hui d'adolescent. L'adolescent rêve d'être amoureux. Il n'y a pas un ado, enfin, j'espère, il n'y a pas un ado qui n'a pas quelque part en lui ce désir d'être amoureux. Voilà. Mais en même temps, aimer, c'est autre chose. L'amour de Dieu comme l'amour envers Dieu est une autre nature que le sentiment amoureux. Et on sait que la difficulté des couples qui se sont formés sur le sentiment amoureux, le pasteur que je suis en a rencontré des centaines, c'est d'aller ensemble vers l'amour véritable. Et c'est le cas de 98% des couples où on s'unit, on s'aime, on se marie, parce qu'on est amoureux l'un de l'autre, c'est quand même ça qui domine, et puis on va devoir apprendre, au bout de quelques années, que l'amour se construit. Donc, évitons peut-être d'être amoureux de Dieu. Je crois qu'il nous appelle à un amour d'une autre profondeur, d'une autre intensité, et d'un autre engagement. Alors, j'ai lu ce psaume jusqu'au verset 20, donc, et j'ai choisi la traduction « Il m'a délivré car il m'aime ». On peut aussi traduire « Il m'a délivré car il m'a choisi ». Mais vous savez que dans l'élection de Dieu, l'amour est fondamental. Ce « il m'a délivré car il m'aime », il anticipe donc la déclaration de Jean, « nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Il m'a délivré, c'est l'expérience de David d'abord, car il m'aime. L'amour de Dieu se manifeste par la délivrance, par la victoire sur les forces de la mort qui, d'une manière ou d'une autre, nous assaillent. L'audace de David, l'audace pour dire « je t'aime, Seigneur », c'est pas qu'il a d'un seul coup un grand sentiment amoureux débordant, c'est que cette audace, elle jaillit de l'expérience éprouvée de cette délivrance, cette expérience vécue du secours de Dieu. Cette libération des puissances de la mort manifeste l'amour du Seigneur envers lui. Alors, en introduction de ce psaume qui célèbre le Dieu victorieux, le Dieu libérateur, cette parole « Je t'aime Seigneur », ça peut en être d'ailleurs aussi la conclusion. Maintenant, j'irai presque comme à chaque fois, j'aimerais vous inviter à écouter ce psaume qui, au-delà de la figure de David, eh bien, nous parle du véritable roi messianique, parce que ça a été chanté un peu là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il nous parle, au travers de l'expérience de David, qu'il nous parle de Jésus lui-même. Essayez d'imaginer comment Jésus prie ce psaume. Je vous rappelle que Jésus a prié tous les psaumes. C'était la culture spirituelle de Jésus était très, très, très imprégnée des psaumes. Il l'a fait, Jésus a prié tous les psaumes. Quel sens ces mots prennent dans la vie de Jésus? Est-ce que vous voyez que ce psaume s'éclaire, alors de la vie de David, mais s'éclaire encore davantage de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, de sa vie glorieuse de ressuscité? Qui plus que le Christ peut dire. Les liens de la mort m'ont enserré, les torrents de la destruction m'avaient rempli d'effroi, les liens du séjour des morts m'avaient enserré, les filets de la mort étaient devant moi. Et qui plus que notre Seigneur peut dire, d'en haut, il tend la main, il me saisit. Il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon ennemi puissant, de ceux qui me détestent, qui sont plus forts que moi. Il m'a délivré, car il m'aime. Vous avez remarqué à la lecture du psaume que devant les puissances de la mort, il y a un long passage, à peu près du verset 8 au verset 16, qui évoque une manifestation de Dieu. Alors, en langage savant, on appelle ça une théophanie, c'est-à-dire un moment où Dieu se manifeste, et face à la mort, se manifeste le Dieu tout-puissant qui ébranle, vous avez les collines, les montagnes, toutes ces références qui ont été faites là, qui ébranle les fondations du monde. La manifestation de Dieu dans l'histoire de David et dans l'histoire de Jésus-Christ, elle semble un intense orage de colère contre toute injustice. La terre est ébranlée, elle tremble. Les fondations des montagnes sont agitées. Elles s'ébranlèrent parce que Dieu s'était fâché. L'ennemi qui me terrorise, l'ennemi qui me pourchasse, l'ennemi qui cherche ma mort, disparaît à l'instant où le Dieu Tout-Puissant se manifeste. Alors, fut une époque qui va peut-être revenir, où on chantait les psaumes. Et alors, pour ceux qui ont un petit peu, peut-être quelques-uns qui ont un peu de tradition protestante ancienne, il y avait ce psaume qui a accompagné nos frères et sœurs dans les combats de la persécution des siècles passés, où on chantait, alors je ne vais pas vous le chanter, mais « Que Dieu se montre seulement ». Il y en a à qui ça rappelle quelque chose ? Alors, c'est un psaume, hein, c'est le psaume 108, c'est pas le psaume 18. Que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place. Le camp des ennemis épars, épouvanté de toutes parts, fuira devant sa passe. On les verra soudain s'enfuir, comme l'on voit s'évanouir une épaisse fumée. Comme la cire fond au feu, ainsi des méchants devant Dieu, la force est consumée. Notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Évangile de Jésus-Christ a vaincu la mort. Vaincre la mort, vaincre les liens de la mort, libérer des liens de la mort, vous savez, ce n'est pas un petit tour de passe-passe. La résurrection, ce n'est pas un petit bout de quelque chose qui se rajoute à notre existence mortelle. C'est un véritable renversement de l'ordre du monde. La manifestation de Dieu que David évoque dans le psaume, annonce le geste divin de la résurrection du Christ, qui est le geste aussi de notre résurrection. L'ordre du monde est renversé. Tout ce qui paraît éternel, stable, ne changera jamais. Il suffit que Dieu paraisse dans sa puissance, dans sa colère, et cela disparaît. Au chapitre 16 hein, du premier livre de Samuel, qui est à peu près, pas tout à fait au milieu, mais David reçoit l'onction royale. Il est choisi pour être le roi successeur de Saül. Et vous savez, je crois que j'avais dit une fois, mais la différence entre Saül et David, si vous regardez leur vie, pas sûr qu'il y en ait un qui soit bien meilleur que l'autre. Sauf que David dit toujours « mon Dieu ». Il parle de Dieu dans une relation qui est personnelle à Dieu, mon Dieu. Alors que Saül ne le dit jamais. Saül dit toujours au prophète, ton Dieu. Là, c'est la grande différence entre David et Saül. Mais lorsque David reçoit l'onction royale, s'ensuit des années de lutte, d'intrigue, de fuite, de combat. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie, vraiment à la fin de sa vie, que va jaillir ce psaume du chapitre 22 ou du psaume 18, si vous le voulez. C'est-à-dire que la vie de David a été marquée de guerres, de conflits, de peurs, de menaces, de complots. Ce n'est pas une vie simple. Et dans ce contexte-là, frères et sœurs, d'un psaume qui arrive, un psaume qui dit la délivrance, un long et long moment de combat, et je pense à vous, frères et sœurs, qui, aujourd'hui, quoique déjà dans la promesse de Dieu, déjà sous l'engagement de Dieu, quoique participant déjà à son salut, comme David avait reçu l'onction, vous qui souffrez encore de l'étranglement des liens de la mort, vous qui, malgré votre foi, malgré la promesse reçue, malgré l'assurance même qui est la vôtre dans la foi, avez une vie qui est encore comme constamment secouée par les flots des torrents de la destruction, pour garder le vocabulaire du psaume. Le pasteur que j'ai été en assemblée pendant une quarantaine d'années a finalement passé une grande partie de son temps à écouter des femmes, des hommes, qui étaient d'authentiques croyants et dont la vie semblait encore marquée des ténèbres d'expériences passées effroyables. Et l'actualité accumule les récits de femmes et d'hommes victimes de manière très, très diverse, mais de violences perverses. Et l'actualité est vraiment très, très proche, qui, quelquefois de très longues années après les événements, on pourrait se dire, oh, bah, c'est du passé, c'est oublié, c'était dans le temps, voilà. Mais aujourd'hui encore, des années après, demeurent à court de souffle. À court de souffle. Vous éprouvez ces liens de la mort asphyxiants. Ces liens qui semblent vous maintenir dans l'ombre de la mort. Quand la lumière et la paix, ou la lumière de la paix, ne semblent jamais totalement là. Et combien d'hommes et de femmes, certains que j'ai connus moi-même, et qui étaient d'authentiques chrétiens par ailleurs, ont choisi le suicide, ou en tous les cas, ont pensé au suicide comme une espèce d'échappatoire, échapper au lien de la mort. Vous voyez que les mots de ce psaume sont des mots justes pour dire les conséquences de ce qu'on appelle aujourd'hui, à juste titre, les violences familiales, les violences conjugales, le viol, les destructions psychiques, la destruction de l'image de soi, toutes les conséquences des incestes. Eh bien, le salut de Dieu restaure la dignité humaine. Le salut de Dieu, la libération de Dieu par la résurrection du Christ, par le pardon prononcé sur mon être comme sur l'humanité, il réaffirme en nous, Dieu réaffirme en nous ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a d'heureux à être des êtres humains. Qu'être un être humain n'est pas condamné à être une calamité. Tout ce qui abîme l'humain, toutes les expériences mauvaises de la vie, sont par nature des expériences spirituelles. Et l'enjeu n'est pas la relation à un individu ou à une institution à cause des faits terribles. L'enjeu, c'est la perte de l'espérance. L'enjeu, c'est qu'à partir de là, une vie a été plongée dans la désespérance, dans l'incapacité à la joie, dans l'incapacité à la paix. Souvenez-vous que Paul écrit que nous ne sommes pas confrontés à l'homme, mais à des puissances, à des autorités, à des pouvoirs, à des dominateurs, à des esprits mauvais, à une culture du mal. Alors, entendez-moi bien, je crois qu'il est nécessaire qu'un tribunal atteste la faute. Et je dis que c'est nécessaire parce que c'est la loi de Dieu. Hein, si vous relisez Moïse, il n'y a pas de. Le tribunal doit dire la faute. Le tribunal doit annoncer le fautif. C'est la loi de Dieu. Mais quant à être libéré des liens de la mort, quant à sortir des liens ténébreux de la mort, hélas, un tribunal n'y suffit pas. S'il suffisait qu'un tribunal le déclare, et puis que tout s'installe désormais dans la paix, non, hélas. La main de Dieu est la main qui nous délivre des conséquences de la violence, des conséquences des ennemis. C'était vrai de David, c'est vrai de nous, et ça l'est attesté par la résurrection de Jésus-Christ, délivré de la mort. Alors, mon frère, ma sœur, saisis la main de Dieu qui se tend vers toi. Comme le psalmiste dit, il m'a saisi, il m'a attrapé. Le Seigneur vient t'arracher aux ténèbres et te conduire à sa lumière. Vous savez, comme pour l'ami de Jésus qui est dans la tombe, Jésus crie « Lazare, sors !» Et Lazare sort. Bien, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est ton nom que le Seigneur crie d'une voix forte. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la vie ressuscitée qui est en Jésus-Christ, à une vie réellement nouvelle, à cette nouvelle création dont Paul parle aux Corinthiens. Voilà, je veux te laisser ce psaume, il y en a d'autres, mais ce psaume-ci, comme un psaume d'espérance. Saisis ce psaume comme une promesse qui est pour toi. Alors, pas une promesse humaine, promesse de bonne volonté, mais incertaine, mais comme la promesse puissante, la promesse absolue, la promesse éternelle de Dieu. Le Seigneur te tend la main et te saisit. Alors maintenant que la louange t'habite, et maintenant toi aussi, avec David, tu peux chanter « Je t'aime, Seigneur, ma force ». Amen.